Donc, nous allons continuer notre étude sur l'évangile de Marc et donc vous faire passer les feuillets, les feuilles, pour que vous puissiez aussi suivre et éventuellement refaire aussi. Donc, ces feuilles sont distribuées surtout pour que l'on puisse vraiment avoir un canevas pour suivre l'étude et pour aussi avoir la possibilité de voir le prochain. Donc, nous sommes dans Marc chapitre 12, cette fois-ci. On écrit donc Marc 11, et je voudrais juste, avant d'entamer Marc 12, rappeler ce que nous avons vu à la dernière fois. La dernière fois, nous avons vu les enseignements que Jésus a donnés dans le temple pendant la semaine, la dernière semaine de sa vie sur terre, qui est appelée la semaine de la Passion. Et nous avons donc fait un timing relativement précis depuis dimanche, lors de son entrée triomphale dans Jérusalem. Et comme ça, nous irons petit à petit jusqu'au vendredi saint, le jour que nous supposons donc de sa crucifixion. Donc le déroulement de cette semaine était que le dimanche, Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem. Le peuple est dans l'allégresse, mais les chefs religieux, eux, sont plutôt mécontents, parce que Jésus ne les ménage pas, il dévoile leur religion de façade. Et ça, ça leur plaît. Ensuite, le lundi, Jésus retourne à Jérusalem, il allait passer la nuit à Béthanie. Et là, en chemin, il maudit un figuier. Et nous avons vu que le figuier maudit était l'image du sage qui ne portait pas ce fruit. Et c'était aussi un signe prophétique du jugement imminent de Dieu sur Israël qui a eu lieu en l'an 70 après Jésus-Christ. Le temple et la ville de Jérusalem ont été détruits. Mais aussi pour nous, ça nous rappelle aussi que nous sommes aussi appelés à porter du fruit pour Dieu. Et que si vraiment Dieu insiste, et nous aussi on insiste dans notre rébellion, jour après jour, semaine après semaine, année après année, il y a un point que Dieu se reconnaît, qu'on appelle point de non-retour, où là, il n'y a plus d'autre solution que de prononcer la malédiction. Bien sûr, nous, on ne connaît pas pour les individus ce point de non-retour, mais Dieu nous connaît. Donc, méfions-nous, quand Dieu parle, nous devons être à son écoute, faire attention et mettre en pratique la parole de Dieu. Et nous avons vu que les chefs religieux, eux, ils contestent l'autorité de Jésus en lui demandant de qui et par qui vient ton autorité. Et Jésus se défend devant ses accusateurs. Et face à la mauvaise foi des religieux, Jésus va maintenant leur parler en parabole. Il y a 6 paraboles pendant cette semaine de la Passion. La parabole des 2 fils, la parabole des mauvais vignerons, la parabole des noces, la parabole des 10 vierges, la parabole des talents, la parabole des préceptes, qui sont rapportées dans les autres évangiles, parce que Marc, lui, ne rapporte que la parabole des mauvais vignerons. Et c'est ce que nous allons voir sans plus tarder, cette parabole des mauvais vignerons. Mais avant de la voir, j'aimerais juste porter une petite précision concernant l'emploi de l'expression « les Juifs » que nous avons martelé la dernière fois, parce que cette expression peut prêter à confusion. Il faut quand même qu'on fasse attention. Dans les évangiles, et ici en particulier, il est évident que cette expression n'a aucune connotation antisémite, hein, que l'on soit vraiment convaincu. Et d'ailleurs, de la part d'un chrétien, toute forme de racisme et en soi une aberration. Il y a d'ailleurs le verset, je crois qu'il est encore affiché là-haut, hein. Il n'y a plus ni juif, ni grec, etc. Donc, aucun texte de la Bible ne permet de justifier la persécution des Juifs commise par l'Église, entre guillemets. Et au contraire, je vous renvoie par exemple au chapitre 10 et 11 des Romains, qui nous montre que l'Église ne peut pas se glorifier parce que l'Église est portée par la souche qui est Israël. Donc, les branches ne peuvent pas se glorifier au dépend de la racine. Alors, pourquoi je fais cette remarque-là? Parce qu'effectivement, il y a peut-être parmi vous des Juifs, parmi nous des Juifs, un Juif, une Juive, qui aurait peut-être été un peu bousculé quand on parle tout le temps de cette expression « les Juifs » dans les Évangiles. Mais je précise que dans les Évangiles, et ici en particulier, il n'y a aucune connotation antisémite. Et d'ailleurs, dans notre évangile de Marc, quand Marc parle des Juifs, il parle plutôt des chefs religieux juifs à l'époque de Jésus. Donc il ne parle pas du juif d'une manière générale. Voilà. Donc si vous êtes juif, soyez ce soir le ou la bienvenue. Sentez-vous à l'aise parmi nous. Il s'agit avant tout des juifs religieux. Et vous savez, les juifs sont comme nous, les chrétiens. Hein? Il y a des chrétiens de cœur. Il y a aussi des chrétiens de nom. Et malheureusement, ces chrétiens de nom, dans l'histoire, ont déformé l'évangile véritable et sont devenus souvent antisémites. Même au jour d'aujourd'hui, il y a des chrétiens et même des églises évangéliques qui quasiment s'imposent pas à l'antisémitisme, mais ils le rejettent. Le peuple juif et nous, dans notre église ici, bien au contraire, nous sommes amis du peuple juif et de tous les peuples en général. Donc si vous êtes un peuple non juif, soyez aussi le ou la bienvenue. Voilà. Donc cette parenthèse est fermée. Nous allons donc prendre la parabole des mauvais vignerons dans Marc chapitre 12, les 12 premiers versets. Est-ce que quelqu'un peut lire Marc chapitre 12? Les 12 premiers versets.
Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et quitta le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part de récolte de la vigne. Ils s'emparèrent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils lui jetèrent des pierres, le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Il en envoya un troisième et ils le tuèrent, puis beaucoup d'autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais ces vignerons dirent entre eux « Voilà l'héritier, venez ». Tuons-le et l'héritage sera à nous. Et ils s'emparèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera mourir les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le laissèrent alors et s'en allèrent.
Voilà. Dans cette parabole, Jésus met en lumière l'hypocrisie des chefs religieux qui tentent leur vato, parce qu'on s'approche du vendredi, là, on est mercredi quasiment, ils jouent leur vato pour arrêter et faire mourir Jésus. Et il est dit au verset 1, Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. D'abord, qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole dans le grec parabolé, c'est une comparaison, un langage figuré, un langage illustré, une métaphore, si vous voulez, une similitude qui peut donner lieu à plusieurs interprétations complémentaires, mais jamais contradictoire. La Bible ne se contredit jamais, jamais contradictoire. Et en fait, le but est d'enrichir la personne qui qui étudie la parabole. Donc ici, nous sommes devant la parabole des mauvais vignerons. Et il y a des personnages et des éléments symboliques qu'il convient d'identifier et d'expliquer. Alors il est dit, un homme planta une vigne. Alors j'ai fait ici un petit diaporama. La vigne du Seigneur. Donc voilà un homme qui plante une vigne. Et l'homme qui plantait la vigne, c'est qui? L'homme qui a planté cette vigne, cette belle vigne-là. C'est joli. Mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et la vigne désigne Israël. Si on va dans, par exemple, Psaume 80, versets 9 à 17. Psaume 80, versets 9 à 17. Pour voir que cette vigne-là symbolise en fait le peuple d'Israël.
Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, puis tu as chassé les peuplades et tu l'as replantée. Tu avais déblayé le terrain devant elle, et elle a pris racine profondément en terre, puis elle a rempli le pays. Son ombre couvrait les montagnes, ses sarments ressemblaient aux plus grandes cèdres. Elle étendait ses vrilles vers la mer et ses rejets allaient jusqu'à l'Euphrate. Pourquoi as-tu défoncé ses clôtures? Tous les passants viennent y grappiller. Le sanglier qui sort de la forêt la retourne en tous sens. Les animaux des champs viennent y pâturer. Dieu des armées célestes, reviens enfin, jette un regard du haut du ciel et vois, viens t'occuper de cette vigne. Viens protéger ce cep que tu as toi-même planté, ce rejeton que tu as fait grandir pour toi. On y a mis le feu, elle a été coupée, que sous l'effet de ta colère, les ennemis périssent.
Voilà, donc là, il est question donc d'Israël, on l'a bien vu. Et il est dit que les sangliers, les animaux sauvages, en fait tous ces animaux, ont attaqué cette vigne. Et pourtant, le Seigneur avait entouré cette vigne d'une haie. Voilà. Donc cette vigne était bien protégée. Une haie est littéralement, en fait, dans le terme original, ça veut dire une barrière. Et son rôle était de protéger la vigne contre les rongeurs, les animaux sauvages, hein, comme on vient de le lire là, et aussi les autres prédateurs. Que évoque cette haie? Cette haie évoque la loi de Moïse qui faisait d'Israël un peuple saint pour Dieu, séparé des influences païennes extérieures. Donc, Dieu avait bien protégé Israël. Si vous prenez par exemple Deutéronome chapitre 26, versets 18 et 19, on voit que Israël était séparé des autres peuples. Deutéronome chapitre 26, versets 18 à 19.
Aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne, sur toutes les nations qu'il a créées, la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit.
Voilà. Et tu observes ses commandements, la loi de Moïse, afin que tu sois un peuple saint, c'est-à-dire un peuple séparé, mis à part pour Dieu, et comme l'Éternel te l'a dit. Et non seulement il a entouré la vigne d'une haie, mais il a aussi creusé un pressoir. Et ce pressoir, c'était donc, servait à écraser les raisins pour en récolter de la vigne. Ensuite, il bâtit une tour. Et la tour était là pour un triple objectif. Dans un premier temps, protéger, plutôt cette tour servait à mettre la récolte. Elle servait aussi à se défendre contre les ennemis de l'extérieur. Et cette tour-là était là pour protéger le peuple d'Israël, l'avertir de toute invasion ennemie, parce qu'il y avait évidemment une sentinelle qui était là au sommet de la tour et qui regardait donc que le peuple d'Israël ne soit pas surpris par les ennemis qui viennent de l'extérieur. Voilà donc ce que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël. Et maintenant, le peuple d'Israël est suffisamment bien protégé, suffisamment en sécurité pour produire du bon vin, pour produire la bonne vigne et pour être vraiment en bénédiction par rapport à l'Éternel. L'Éternel laissa cette vigne entre les mains des vignerons. Il l'afferma à des vignerons. En fait, ça veut dire que il s'est mis d'accord avec les vignerons pour que les vignerons puissent cultiver, faire fructifier cette vigne-là pendant son absence, et que ils avaient un certain pourcentage sur le produit de la vigne pour que, à son retour, au retour du propriétaire, ils puissent lui donner le produit de la vigne, ce qu'ils avaient donc récolté. Voilà donc ce qu'a fait le propriétaire de la vigne. Dieu attendait de son peuple le fruit abondant en sainteté, en amour et en toutes sortes de bonnes œuvres. Voilà donc les éléments qui constituent la parabole de mauvais vivant. Malheureusement, le cœur du peuple était endurci. Malheureusement, le peuple a rejeté à plusieurs reprises, et notamment, hein, quand je dis le peuple, comme je l'ai signalé auparavant, c'est essentiellement les chefs religieux qui ont rejeté tous les messagers que Dieu leur envoyait pour les avertir. Attention, faites attention, vous ne prenez pas tellement soin de la vigne est en perdition, revenez. Malheureusement, les uns après les autres, les messagers du Seigneur ont été tués, ont été mis dehors et ont été renvoyés à vide. Et donc le Seigneur leur présente cette parabole pour réveiller en eux, pour réveiller dans le cœur des chefs religieux, pour que leurs yeux s'ouvrent en quelque sorte, pour qu'ils voient qu'en fait, ils sont en présence du dernier envoyé du propriétaire de la vigne, c'est-à-dire le Fils de Dieu lui-même. Mais les chefs religieux, jusque-là, ne comprennent absolument rien. Donc, le Seigneur va leur parler en parabole. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le Seigneur leur parle en parabole. Prenez par exemple Matthieu chapitre 13, versets 11 à 15. Là, on va voir que les disciples étaient étonnés, étaient surpris que le Seigneur leur parle en parabole souvent. Et ils vont poser une question au Seigneur en lui demandant: mais pourquoi tu parles toujours en parabole? Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu chapitre 13, versets 11 à 15?
Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe: vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse.
Voilà. Le peuple a endurci les oreilles, ils ont fermé le cœur, et c'est ça qui est terrible, de peur. Mais de peur, ils ont peur de quoi? Ils ont peur que leurs yeux s'ouvrent, se rendent compte. Ils ont peur que leurs oreilles entendent. Ils ont peur que leur cœur comprenne. Parce qu'ils ont peur de se convertir au Seigneur. C'est vraiment le comble. Et comme nous ne cessons de le souligner, il y a, et comme je l'ai souligné au départ avec le Romartel, il y a un point de non-retour. Faisons attention. Lorsque volontairement, et c'est le cas ici, le peuple a fermé toute possibilité de revenir, de venir à son Dieu, à ce moment-là, s'il restera à un moment donné qu'une seule solution, c'est que cette vigne-là soit donnée à d'autres. Et c'est ce qui va se passer. Parce que les chefs religieux sont des mauvais vignerons. Sont des mauvais vignerons. Et Jésus termine au verset 9 en leur posant une question. Il pose une question à ses interlocuteurs. À la fin de cette parabole, il dit, mais puisque le peuple a réagi de cette manière-là, puisque Israël a réagi de cette manière-là, entre guillemets, pour l'instant, ils ne savent pas qu'il s'agit d'Israël. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la sanction qu'il va prendre à l'encontre des mauvais vignerons? Et dans la foulée, Marc dit, il viendra, il fera périr les vignerons, il donnera la vigne à d'autres. Et si on ne fait pas attention, on a l'impression ici que le Seigneur répond lui-même à sa propre question. Il pose une question et il répond lui-même. En fait, il n'en est à rien. Et c'est pour ça qu'il est important de regarder l'ensemble de l'Écriture. On le dit aussi souvent. Ne pas se contenter d'un verset sorti de son contexte. En fait, ce sont les chefs religieux eux-mêmes, ceux qui ont posé la question à Jésus. C'est Jésus, en fait, c'est eux qui vont, à qui Jésus a posé une question. En fait, c'est eux qui vont répondre. Ce sont les chefs religieux qui vont répondre. Regardez Matthieu, chapitre 21, versets 40 et 41. Là, le même passage, comment il est expliqué dans Matthieu 21, chapitre 40 et 41, versets 40 et 41. Si quelqu'un peut lire.
Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Ils lui répondirent, il fera mourir misérablement ses misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu.
Voilà. Donc là, il est dit, ils lui répondirent. En fait, sans le savoir et sans le vouloir, ils viennent de se condamner eux-mêmes. Ils viennent de dire, ah ben le maître, donc le propriétaire de la vigne, viendra, il va faire mourir ces méchants vignerons. Oui, mais c'est qui ces méchants vignerons? C'est eux. Donc ils se condamnent eux-mêmes en fait. Mais pour l'instant, Jésus est devant des personnes dont les yeux sont encore fermés. Ils ne savent pas que les mauvais vignerons, c'est eux. Alors le Seigneur va aller un peu plus loin, pour que leurs yeux, vraiment, cette fois-ci, puissent s'ouvrir. Versets 10 et 11 de notre passage de Marc 12. Est-ce que quelqu'un peut lire les versets 10 et 11 de Marc 12?
N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux? Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent.
Enfin, ils ont compris. Il faut du temps, hein, vraiment, le cœur pour comprendre, alors que le Seigneur martèle la vérité. Et cette vérité sort, en fait, c'est le Seigneur cite le psaume 118. Hein, si on va au psaume 118, versets 22 et 23, le Seigneur cite ce verset.
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. 23 aussi. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux.
Voilà. Donc le Seigneur dit, la pierre que ceux qui ont rejeté ceux qui bâtissaient, en fait c'était donc les chefs religieux, c'est eux qui bâtissaient, est devenue la principale langue. C'est devenu la pierre angulaire. Alors, je ne sais pas si tout le monde visualise ce que c'est qu'une pierre angulaire. En fait, Junot pourrait mieux nous expliquer ça. Une pierre angulaire, la pierre de l'angle, en fait, voilà un exemple de la pierre angulaire. C'est la pierre principale qui soutient, non seulement qui soutient tout, mais qui donne l'éclairage, qui équerre en fait tout le bâtiment. Donc, tous les murs qu'on va monter seront éclairés par rapport à cette pierre de l'angle. Donc, voilà la pierre angulaire, voilà une autre diapo de la pierre angulaire. C'est une pierre en principe qui est massive, hein, qui est importante, et chaque angle est taillé avec précision. Parce que si vous mettez un angle qui est mauvais, évidemment, tout le bâtiment aura un angle qui est mauvais. Donc là, par exemple, il est important de l'équerrer à 90 degrés exactement. Voilà. Donc la pierre, la principale pierre de l'angle. Et cette fois-ci, comme on disait, les chefs religieux ont enfin compris que c'était Dieu qu'il s'agissait, parce qu'ils connaissent aussi l'Écriture. Ils connaissent le psaume 118. Et ils viennent, ils se rendent compte que Jésus s'applique à lui-même cette prophétie, dans ce psaume. Et là, ils sont furieux. Mais pourquoi sont-ils furieux? Pourquoi ils ne se repentent pas? Je ne sais pas. On vient de vous mettre devant la vérité. Vous savez que c'est la vérité. Mais au lieu d'ouvrir la vérité, vous allez furieux. Nous sommes là devant des cœurs vraiment endurcis, mais volontairement endurcis, puisqu'ils se rendent compte que Jésus vient de les mettre en face de la vérité. Alors, attention, frères et sœurs, nous aussi. Est-ce que quand nous sommes devant la vérité, nous avons tendance à nous révolter, à fuir, à nous en aller, à être indifférents? Est-ce que nous sommes des bons vignerons? Oui, parce que l'Église, dans une certaine mesure, pourrait être aussi appelée la vigne du Seigneur. Bon, la vigne du Seigneur, au sens premier du terme, c'est Israël. Mais on peut aussi s'appliquer cette définition. Parce que regardez dans Romains, chapitre 14, verset 12. Romains 14, 12.
Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même.
Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous sommes notre corps, notre vie. Notre existence est en quelque sorte une vigne dont le Seigneur attend du fruit, un fruit de sainteté, un fruit de bonnes œuvres. Et chacun de nous, au retour du propriétaire de la vigne, au retour du Seigneur, chacun de nous aura à rendre compte pour lui-même. Est-ce que j'ai vraiment conscience que devant Dieu, le jour où je serai en face de lui, j'aurai à rendre compte de toutes mes actions, bonnes ou mauvaises? Bon, évidemment, ici, il n'est pas question de perdre le salut ou quelque chose comme ça, non. Il est question de mes bonnes œuvres ou mes mauvaises œuvres qui seront dévoilés devant le Seigneur. L'apôtre Paul dit, nous ne perdrons pas notre salut, mais pour nous, nous serons sauvés comme au travers du feu. Nous pouvons perdre notre récompense, sauvés comme au travers du feu, il restera évidemment le salut. Bon, alors nous ne serons pas de ceux qui disent, oui, mais le salut essentiel, c'est finalement c'est d'être sauvé. Comme dit le proverbe, mieux vaut un strapontin au ciel. Vous ne savez pas, certains ne savent pas, les plus jeunes peut-être Vous savez pas ce que c'est qu'un strapontin, c'est une espèce de petit tabouret qui était dans les salles de cinéma quand tous les sièges étaient occupés. Donc on présentait un petit tabouret en fait, qui était collé au siège. Donc pour suivre le film, ben, vous prenez le petit tabouret. Ouais. Donc il y en a qui disent, oh, mieux voir un petit tabouret au ciel qu'un fauteuil en enfer. C'est un mauvais raisonnement. Cela veut dire qu'on n'a pas vraiment compris ce que le Seigneur attend de ses enfants. Nous n'avons pas à chercher à occuper un strapontin. Non, non, non. L'apôtre Paul dit, courez de manière à gagner la course, pas de manière à être dernier de la course. Voilà. Donc, faisons attention à ce que nous sommes de mauvais bons vignerons. Et puis, ici, il est question de la pierre angulaire. Mais la Bible aussi parle de nous comme étant des pierres vivantes qui devons nous aligner, nous éclairer par rapport à une grande pierre angulaire. Regardez 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Et quelqu'un peut chercher aussi Éphésiens, chapitre 2, verset 20, qu'on verra par la suite. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5.
Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ.
Voilà, et Éphésiens 2, 20.
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
Voilà, donc nous sommes des pierres vivantes. Et Dieu va placer des pierres les unes à côté des autres, les unes au-dessus des autres, etc. Et tout ce bâtiment est en train de s'élever comme un temple de Dieu. Mais si une pierre ne respecte pas l'alignement par rapport à l'éclairage, je ne pourrais vous dire ce qui va arriver. Hein. Ce qui va arriver, c'est que le bâtiment lui-même est fragilisé. Tout l'édifice peut être fragilisé. Parce que je ne m'aligne pas par rapport à la pierre angulaire et par rapport au mur qui est en train de monter. Ça veut dire que je dois être au diapason de la volonté de Dieu et je dois être en accord, en harmonie avec mes frères et sœurs. Je dois vivre avec eux en harmonie. Sinon, ce qui va se passer, c'est que je vais devenir une pierre qui est mal alignée et je fais courir à tout le bâtiment le risque d'être fragilisé. Donc, nos actions, nos attitudes, notre comportement, sans le voir et sans le savoir, a une grande influence sur l'édifice dans son ensemble. Est-ce que je suis conscient de cette vérité? Ah, si je suis conscient, frères et sœurs, comme on a dit la dernière fois, aimons-nous les uns les autres et pardonnons-nous réciproquement comme Jésus nous a pardonné, parce que sinon nous risquons d'être mal alignés par rapport à l'édifice total. Les chefs religieux, même s'ils sont partis furieux, ne s'avouent pas vaincus. Ils envoient vers eux les pharisiens et les hérodiens pour tenter de le piéger. C'est le fameux passage du tribut dû à César. Marc chapitre 12, verset 13 à 17. Quelqu'un peut lire Marc 12, 13 à 17?
Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le donne. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement.
Voilà, donc cette fois-ci, ils envoient une haute artillerie hein, pour déstabiliser Jésus, les pharisiens et les hérodiens. Bon, les pharisiens, on a l'habitude de parler d'eux. les Hérodiens, juste pour dire que c'était un parti politique juif, soutenant Hérode Antipas, qui est aussi appelé Hérode le Tétrarque. C'est cet Hérode-là, parce que c'est une dynastie, hein, il y a beaucoup de Hérode, c'est cet Hérode-là qui fit exécuter Jean-Baptiste, et il était lui-même à la solde de Rome. Alors les pharisiens et les Hérodiens viennent et ils posent la question, ils posent à Jésus une question, un piège. En fait, Jésus, même s'il répond oui ou s'il répond non, Jésus est littéralement piégé parce que, quelle que soit sa réponse, il va être en difficulté. Et on va voir comment Jésus va sortir de ce piège. Et il vient donc au verset 14, « Maître, nous savons que tu es vrai. » On croit entendre vraiment le tentateur. « Viens avec une flatterie. » Mais oui, tu es un grand homme, un homme vrai, un homme qui n'a peur de personne. En fait, c'est vraiment incroyable l'hypocrisie pour moi, jusqu'à quel point cette hypocrisie peut aller. Mais bon, dans leur hypocrisie, en fait, ils disent des choses qui sont néanmoins vraies. Jésus est vrai. Jésus ne s'inquiète de personne. Jésus ne regarde pas l'apparence des hommes. Jésus enseigne la voie de Dieu selon la vérité. Tout ça, c'est vrai. Mais dans la bouche des pharisiens et des hérodiens, ça ressemble plutôt à une flatterie pour déstabiliser le Seigneur, pour le mettre dans une position de telle façon qu'il puisse instantanément répondre à leurs questions. Et au moins, ils lui disent, bon, tu es un homme intègre. Est-ce que nous devons, oui ou non, payer le tribut à César? Et le Seigneur connaît les secrets de leur cœur. Il met en lumière leur hypocrisie. Et en fait, il va retourner le piège contre ses adversaires. Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier pour que je le voie. » C'est bizarre, parce que bon, ça veut dire que peut-être que le Seigneur lui-même n'avait pas dans son prochain denier. Bon, c'est possible. Mais en tout cas, il dit, apportez-moi un denier. Alors, qu'est-ce qu'un denier, en fait? Un denier, voilà. Ici, vous avez un denier de l'époque de Jésus. C'est une monnaie romaine. Là-dessus, il y a, dans le côté face, il y a la figure de César. Alors César, c'est un titre, hein, et il y a eu beaucoup d'empereurs qui étaient appelés César. Et ici, il s'agit de l'empereur Tibère, qui est le fils de Auguste, l'empereur Auguste. Côté pile, pour côté face, donc, sa figure, et côté pile, il y a une inscription, en fait, qui veut dire « souverain pontife ». C'est curieux quand même, hein? Il était appelé souverain pontife, donc avis aux amateurs. Hein? Alors, un denier romain, c'était l'équivalent d'une drachme, je ne sais pas comment on prononce, grec. Et c'était le salaire journalier d'un ouvrier agricole, 12 heures de travail, hein? Ou d'un soldat. Voilà, donc un ouvrier agricole ou un soldat gagnait un denier par jour. Donc voilà le tribut qui est dû à César. Montrez-moi un denier. On lui montre un denier. Et le Seigneur dit, mais l'effigie qui est là, la figure qui est là, à qui appartient-elle? À César, il répondit. Alors le Seigneur va dire quelque chose qui est devenu, hein, une phrase qui est devenue célèbre, même dans le monde non chrétien. Rendez à César ce qui est à César. C'est une phrase bien connue partout, qu'on va vous répéter, rendez à César ce qui est à César, mais les gens oublient de dire, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Donc, ils trompent en fait le verset du Seigneur. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui a désarçonné complètement ses adversaires. Ils n'en revenaient pas de la réponse du Seigneur. Ils ne s'attendaient même pas à une telle réponse. Et ça va leur clouer le bec, comme on dit. Alors, quelle application pour nous? Nous aussi, nous portons une image. Pas l'image de César, bien sûr. Mais quelle est l'image que le chrétien porte en lui-même? Regardez Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. L'homme en général porte quelle image en lui? Genèse 1, 26 et 27.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Voilà, donc tous les hommes portent en eux une image, l'image de Dieu. Malheureusement, nous savons que le péché a tout gâché. Cette image a été complètement salie. Mais quand on devient chrétien, cette image est restaurée et nous reflétons vraiment l'image et nous devions refléter l'image et la gloire de Christ. Donc, selon ce que dit le Seigneur ici, nous qui avons cette image en nous, nous devons rendre à César ce qui est à César. Évidemment, nous avons l'image de Dieu, mais néanmoins, la Bible dit par exemple dans 1 Pierre chapitre 2, versets 13 à 17, si quelqu'un peut lire 1 Pierre chapitre 2, versets 13 et 17.
C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre. Et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Et si c'est comme à un père que vous faites appel, à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre.
Voilà, donc là, c'est pas tout à fait ce que je voulais vous montrer, parce que ça, c'est plutôt rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Plutôt Romains chapitre 13, verset 1 à 7. Est-ce que quelqu'un peut lire Romains 13, 1 à 7?
Non, au début du passage qu'on vient de lire, il y a quand même une partie sur.
Ah, il y a une partie sur.
Sur les institutions.
Oui. Sur rendre à César ce qui est à César, oui.
À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies par les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tout, soit au gouverneur parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien.
Merci beaucoup. En fait, c'était ça que je voulais souligner. Bon, d'accord. Donc, ça, c'est rendu à César. Le chrétien est aussi soumis aux autorités. Et c'est pour ça que nous prions aussi pour les autorités. Nous devons payer nos impôts. Hein, attention. Il faut payer ses impôts, quand même. Mais nous devons rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est la deuxième partie qui a été dit tout à l'heure. Donc, je vous donne juste quelques autres références. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, Romains 6, 12 à 13, Romains 12, 1, notamment quand il est dit, offrez donc vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, nous devons non seulement rendre à César ce qui est à César, mais surtout à Dieu ce qui est à Dieu. Les pharisiens payaient leurs impôts, c'est vrai. Les pharisiens rendaient à César ce qui est à César, c'est vrai. Mais en revanche, ils ne rendaient pas à Dieu ce qui est à Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de terrible. Parce qu'ils étaient finalement, ils ne faisaient pas mieux que le commun de Monsieur Tout-le-Monde. Hein. Le croyant, donc, est soumis aux autorités. Et il doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, c'est ce groupe étant lui aussi réduit au silence, Les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, les pharisiens, les hérodiens, tout ce monde a été remis au silence. Et maintenant, on va envoyer la dernière batterie, le dernier missile contre le Seigneur, c'est-à-dire les Sadducéens. Alors, les Sadducéens, c'était une secte juive, hein, influente. C'est la secte la plus aristocratique du monde juif. Et ils avaient pénétré, infiltré tout le secteur religieux. Les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, la plus grande partie du Sanhédrin étaient des Sadducéens. Alors, les Sadducéens ignoraient la loi orale, les traditions et les règles des pharisiens. Ils n'acceptaient en tout et pour tout que l'autorité du seul Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la loi de Moïse. Pour eux, c'était l'autorité suprême. Les autres livres étaient prêté à caution, donc ils n'y croyaient pas tellement aux autres livres, notamment les prophètes. Et ils se réservaient en plus le droit d'interpréter à leur guise la loi, contrairement aux pharisiens qui, eux, étaient vraiment très, non seulement très à cheval sur la loi, mais qui allaient tellement loin parfois que c'était devenu insupportable. Voilà. Alors ils vont venir vers le Seigneur. Et ils vont lui présenter un cas d'école, mais un cas complètement farfelu, une histoire à dormir debout. Ils vont raconter au Seigneur l'histoire suivante. Quelqu'un peut lire Marc 12, 18 à 27.
Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des sept ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux se rappelle la femme? Car les sept l'ont eu comme pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur.
Voilà, donc ils viennent vers Jésus, vraiment, je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à cette histoire complètement folle. Voilà, il y a eu quelqu'un qui avait parmi les morts, son frère devait épouser cette femme-là, lui aussi les morts, etc., etc., jusqu'à la septième génération. Et finalement, le jour de la résurrection, bon, ils vont se retrouver au ciel. Tout le monde voudra cette femme comme épouse, puisque tout le monde l'a eu comme épouse. C'est la polyandrie, la polyandrie au ciel.
La
polygamie, beaucoup de maris, une femme, beaucoup d'hommes. Polygamie, c'est
un homme qui a plusieurs femmes.
Une femme, un homme. Hein. Voilà. Donc, il nous présente un cas d'école.
C'est un homme qui a plusieurs femmes.
Mais c'est complètement fou. C'est complètement fou. Bon, cette loi, c'est une loi de Moïse, néanmoins. Ça s'appelle le Lévira. Que vous trouverez, par exemple, dans Deutéronome 25, 5 à 6, donc on ne va pas le lire. Mais c'est une loi, et ils ont inventé cette histoire rien que pour déstabiliser le Seigneur. Et donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va répondre? Ben, il va répondre la chose suivante. Mais mes pauvres amis, mais vous êtes complètement dans l'erreur. Pourquoi? De toute façon, vous ne comprenez pas les Écritures. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Ce que vous dites là n'a aucun sens.
Oui.
Ça n'a aucun sens.
Ah oui, c'est sûr.
Pourquoi? Et le Seigneur va les contredire uniquement en citant un seul passage de l'Ancien Testament. un passage du Pentateuque, c'est très important, je cite un passage du Pentateuque, puisque c'est le livre auquel ils prêtaient foi, eux. Un passage du Pentateuque qu'on trouve dans le livre de la Genèse.
Tu ne l'as pas marqué.
Exode, pardon. Exode 3.6. Voilà, Exode 3.6. Est-ce que quelqu'un peut lire Exode 3.6?
Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu.
Voilà, parce que les Sadducéens ne croient pas du tout à la vie après la mort. C'est incroyable. Ils vivaient en fait pour eux, on vit, on respecte les lois de Dieu, on est béni, donc on devient un homme important, un riche, etc. Et après, on meurt et c'est terminé. L'histoire s'arrête là. Il n'y a pas de vie après la mort. Ça me rappelle certaines remarques de personnes non converties, hein, dans la famille de mon épouse, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Ils ne croient pas à la vie après la mort. C'est en quelque sorte les Sadducéens sont le savoir. Donc tout, il faut tout faire ici-bas pour jouir de la vie, pour ramasser le maximum d'argent, pour avoir la position la plus haute. Et c'est pour ça qu'ils s'infiltraient partout. Ils étaient partout, ils commerçaient, ils étaient dans le monde des sacrificateurs, des religieux, pour avoir de l'importance. Et eux, ils voyaient d'un mauvais œil que Jésus chasse les vendeurs du temple, hein, parce qu'ils étaient plus ou moins partie prenante de toute cette mafia. Et donc, cette dernière artillerie qu'on envoie au Seigneur, c'est vraiment l'artillerie hyper lourde. Et le Seigneur va les confondre par ce seul verset. Alors, comment comprendre ce verset? Si on le lit comme ça, et si on ne pioche pas tellement la doctrine des Sadducéens, on a l'impression que le Seigneur répond un tout petit peu à côté. Parce que le Seigneur va parler de ce que Moïse a vécu dans le buisson ardent, quand Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob ». En d'autres termes, Abraham, Isaac et Jacob sont morts. C'est vrai, hein, parce que quand Moïse a cette rencontre dans le buisson ardent, tous ses ancêtres étaient déjà morts. Ils sont morts, mais néanmoins, je suis. C'est-à-dire qu'au temps présent, au moment où Moïse avait cette rencontre dans le buisson ardent, Dieu était toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En d'autres termes, Abraham, Isaac et Jacob étaient toujours vivants et Dieu était toujours leur Dieu. Donc le Seigneur dit ici, la vie existe après la mort. Alors en lisant ça, je me suis dit, mais quel est le lien avec la résurrection du corps? Mais en fait, je me suis rendu compte, en piochant un peu plus, en lisant des commentaires, etc., en fait, les Sadducéens, non seulement ils ne croyaient pas en la résurrection corporelle, mais ils ne croyaient pas du tout à la vie après la mort. Et là, on est en plein dans le mille. Le Seigneur a tapé en plein dans le mille là. Parce que si Dieu, si Abraham, Isaac et Jacob continuent de vivre, ça veut dire qu'il y a une vie après la mort. Et donc, la résurrection en découle, en fait, même la résurrection corporelle en découle. Et là, les Sadducéens ont été confondus parce que justement, ils ne s'attendaient pas à un argument qui joue uniquement sur le temps employé ici. Je suis. Dieu ne dit pas j'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand ils étaient là-bas en Palestine, quand ils erraient sur la terre, j'étais leur Dieu. Non, il dit, je suis encore, parce qu'ils sont encore vivants. Ils sont là à côté de moi. Tu les vois peut-être pas, mais ils sont à côté de moi. Et je suis toujours leur Dieu. Ils sont vivants. Donc, les pharisiens étaient complètement dans l'erreur, parce que Dieu est un Dieu vivant. Dieu est un Dieu des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Et donc, nous avons cette certitude que nous aussi, quand nous allons mourir, nous n'allons pas perdre la vie, nous allons ressusciter et nous serons auprès du Seigneur. Quelle grâce! Le salut que nous avons ne se limite pas à cette terre, à jouir au maximum des bénédictions que Dieu nous donne sur la terre. Non, la vie après la mort est infiniment plus glorieuse que la vie sur cette terre. Et c'est pour cela que les Sadducéens étaient complètement dans l'erreur. Pourquoi? En fait, pour une raison très simple, c'est que les Sadducéens n'avaient pas fait une analyse approfondie de la Bible. Et c'est pour nous une grande leçon. Quand on ne fait pas une exégèse correcte de la parole de Dieu, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Un verset sorti de son contexte. Un verset qui n'est pas applicable. Et bien, ce verset-là, si on le sort de son contexte, il n'est pas applicable, il peut nous faire dire n'importe quoi. Et c'est ce que faisaient les Sadducéens. Les Sadducéens sortaient tous les versets de leur contexte parce qu'ils se réservaient le droit d'interpréter la parole de Dieu. Alors, en quelque sorte, ils étaient les juges de la parole de Dieu. Et nous, il nous est demandé d'être soumis à la parole de Dieu et non d'en être les juges. Donc, pour nous-mêmes, faisons attention. La Bible, toute la Bible et rien que la Bible. Et faisons une exégèse correcte des choses. C'est-à-dire que regardons une doctrine en fonction du contexte immédiat, du contexte dans lequel on est en train de lire, mais du contexte aussi un peu plus loin et d'une manière générale du contexte de toute la Bible. Que dit toute la Bible sur le sujet que je suis en train d'étudier ? Et là, nous avons un éclairage panoramique qui couvre toute la vérité de Dieu. Donc, pour terminer, on va terminer là-dessus. Faisons attention à la manière dont nous interprétons la parole de Dieu. Ne soyons pas des Sadducéens qui, lorsqu'on nous met la parole de Dieu devant nous, on découvre tout d'un coup que c'est horrible, en fait. Moi, je meurs à la place d'un Sadducéen qui découvre tout d'un coup que la colonne vertébrale sur laquelle il s'appuyait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie après la mort, il faut jouir au plus vite possible de la vie sur cette terre. Tout s'écroule. C'est pas ma meilleure importance. Et là, c'est pas le cas. Ça n'amène pas à l'importance. Au contraire, ça mène à la colère. Frères et sœurs, soyons soumis à la parole. Prions. Est-ce que quelqu'un peut terminer par la prière?
Seigneur, nous voulons ce soir encore une fois, Seigneur, te dire merci. Te dire merci, Seigneur, parce que, comme il nous a été rappelé, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et nous voulons, Seigneur, reconnaître que nous qui étions perdus, dans ton amour, Seigneur, tu as donné Jésus-Christ et il s'est donné pour nous qui étions perdus. Et par le sang de Jésus, tu nous vois à travers ce sang qui nous justifie de tout péché. Et ce soir encore, tu nous as rappelé à travers ta parole l'importance qu'il y a de méditer ta parole, parce que ta parole, elle est la vérité. Ta parole, c'est celle qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous corrige, parce que nous avons besoin, Seigneur, d'être corrigés, nous avons besoin d'apprendre toujours, de vouloir, Seigneur, aussi être à ton image, comme nous l'avons dit. Nous voulons, Seigneur, vraiment, ce soir, nous incliner devant toi et te prions que nous puissions pas être comme ces Sadducéens, comme ces Juifs qui voulaient te contrer, Seigneur. Ce que toi tu nous demandes, c'est de marcher humblement, de marcher, Seigneur, en ayant les regards fixés sur toi, de te faire pleinement confiance en toutes choses. Et c'est vrai, Seigneur, que la vie n'est pas toujours comme nous voulons, mais nous voulons rester les yeux fixés sur toi. Nous voulons, Seigneur, te faire pleinement confiance en toutes choses, même dans les moments difficiles. Nous voulons, Seigneur, ce soir encore, oui, regarder à toi, Seigneur, et te demander vraiment de nous accompagner, chacun de nous qui sommes ici. Tu connais chacun nos cœurs, nos joies, nos difficultés, nos faiblesses, nos peurs, parfois même nos doutes. Mais Seigneur, tu nous remplis par ton esprit. Alors Seigneur, malgré ce que nous pouvons vivre, nous voulons, Seigneur, oui, te faire pleinement confiance. Même si les choses ne sont pas comme nous voulons, Seigneur, croire à ce que tu nous dis. Parce que, comme il nous l'a été rappelé, nous voulons croire à ta parole, toute ta parole et rien que ta parole. Un jour, Seigneur, dans les cieux, eh bien, tout sera dévoilé. Et nous voulons, oui, courir pour pouvoir toujours être à ton image, Seigneur. Alors, ce soir, nous te demandons vraiment de nous remplir de toi, que nous puissions vraiment être celui que tu veux que nous soyons. Donne-nous, Seigneur, ton esprit, afin de vouloir toujours grandir auprès de toi. Te prions de nous raccompagner les uns et les autres, et que ta parole de ce soir encore, nous puissions la ruminer, nous puissions aussi la revoir dans notre esprit. Merci de ce que tu fais en chacun de nous. Te remercions pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.